it's been frustrating.
Vous savez, c'est frustrant de sentir qu'on n'a pas voix au chapitre, de se sentir invisible.
And to be invisible.
Sheryl Jackson, présidente de la Chicago Urban League, est l'une des plus illustres représentantes de la grande bourgeoisie noire de Chicago.
La communauté afro-américaine n'est pas monolithique. Les médias s'intéressent seulement aux gens du spectacle, aux athlètes ou aux problèmes sociaux dans notre communauté. Avec l'élection de Barack Obama, le pays commence à s'interroger. Y a-t-il d'autres noirs comme lui ? Et la réponse est oui, bien sûr. Barack n'est pas une anomalie, une exception, un coup de chance. Nous sommes là, en très grand nombre, sans avoir attiré l'attention des médias ou du reste du monde. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. 'Cause I've been blasting and laughing so long that
drogue, criminalité, hip-hop, mère célibataire. Quatre images auxquelles on associe souvent les Noirs américains. Ils sont pourtant nombreux à ne pas se reconnaître dans ces stéréotypes. André, Mary, Angelica, Michael appartiennent tous à des degrés divers à la bourgeoisie noire. Et ils souffrent de clichés qui leur collent à la peau.
Oui, ça fait mal. C'est l'un des problèmes auxquels sont confrontés les entrepreneurs afro-américains. En plus de tout le reste, il faut aussi changer la perception à l'égard de notre communauté.
L'image qui est véhiculée des Afro-Américains s'insère dans un mode d'oppression. On façonne une image pour garder une population au bas de l'échelle.
Oui, je me sens parfois offensée. Je considère que je vaux mieux qu'une femme à moitié nue dans un magazine.
On ne rend jamais compte des bonnes nouvelles, des succès. On ne rapporte que les mauvaises nouvelles et les échecs.
Jeff Cummings, 46 ans, est avocat à Chicago. Ses parents appartenaient eux aussi à la bourgeoisie noire. Et pourtant, il se sent toujours obligé au quotidien de se justifier sur son statut social.
Un homme afro-américain de la classe moyenne sera toujours perçu comme le pire des stéréotypes jusqu'à preuve du contraire. Par exemple, un homme blanc qui ne vous connaît pas va commencer à vous parler en slang, façon hip-hop, en présupposant que c'est votre manière de parler, alors que vous n'avez pas encore dit un mot. Il y a une autre chose à laquelle je fais très attention, sans que mes collègues de travail s'en aperçoivent, c'est ma tenue vestimentaire. J'ai un collègue blanc qui s'habille très relax pour des réunions, un vieux pantalon kaki, une chemise usée. Si je me présentais comme ça, on me prendrait pour un SDF, on ne me laisserait même pas entrer. Je connais des dizaines de gens comme moi, diplômés, un bon travail, jamais l'histoire, citoyen responsable, bon père de famille. Mais on ne parle jamais de nous aux informations.
Il a toujours existé un embryon de bourgeoisie noire aux États-Unis, même du temps de la ségrégation. C'est d'ailleurs une Afro-Américaine, Madame C.J. Walker, qui est devenue la première femme millionnaire du pays au début du XXe siècle, grâce à ses produits pour cheveux. Mais c'est surtout après le mouvement des droits civiques dans les années 50 et 60 qu'une véritable classe moyenne prend son essor. Mary Patillo, professeure de sociologie à l'université Northwestern, près de Chicago.
Environ 50% de la population noire peut être considérée comme faisant partie de la classe moyenne, selon certains critères comme le revenu ou un emploi de type col blanc. Si on prend en compte les diplômes universitaires, c'est beaucoup plus restreint. 20% seulement des Noirs américains sont considérés comme une élite. What Les années 50, 60, 70 ont connu la plus forte croissance de la bourgeoisie noire américaine. Il y a eu un ralentissement dans les années 80 lié à la crise économique. Vers la fin des années 90, on a vu croître une élite noire. Les premiers représentants de la classe moyenne étaient des enseignants, des travailleurs sociaux, des secrétaires ou des cadres moyens, des salariés du secteur de la santé. Depuis les années 90, on voit beaucoup plus de docteurs, d'avocats, de professeurs, de cadres supérieurs et aussi de propriétaires de sociétés. Il y a de plus en plus de familles noires qui gagnent plus de 100 000 dollars par mois. Il y a une croissance dans le pourcentage de familles qui gagnent le plus de revenus, donc revenus au-dessus. Or say $100,000 a year.
I'm Amy Hilliard. I'm president and CEO of the Comfort Cake Company here in Chicago, where we make pound cake so good it feels like a hug.
Amy Hilliard fait partie de cette nouvelle élite d'entrepreneurs noirs. En 2001, elle crée sa propre société, Comfort Cake, à partir d'une idée simple, produire à grande échelle le seul gâteau qu'elle sait faire, le 4 quarts. On trouve aujourd'hui ces Comfort Cake dans les supermarchés, dans les cantines scolaires, dans les avions aussi.
C'est vraiment incroyable. C'est ma propre recette que ma grand-mère m'a aidé à améliorer.
Bon, ben, je vais goûter. C'est délicieux. Je peux vous demander votre secret ?
Vous pouvez toujours demander, mais je ne vous le dirai jamais.
There's a picture of me with Barack Obama. That was the.
Dans les bureaux de Comfort Cake à Chicago, Amy Hilliard a accroché une photo d'elle avec Barack Obama. Il y a aussi, sous verre, une couverture d'Ebony, le Paris Match des Noirs américains. On y voit le futur président, Ray-Ban sur le nez, présenté comme l'un des 25 frères les plus cools de tous les temps. Et puis dans un coin, une petite sculpture de pierre apportée du Sénégal.
Aller en Afrique a changé ma vie. Être né aux États-Unis, c'est une chose. Mais toucher la terre d'où viennent vos ancêtres, c'est une toute autre expérience. Je me souviens de la porte sans retour sur l'île de Gorée. Je pouvais sentir l'esprit de mes ancêtres esclaves. Sans eux, je ne serais pas là aujourd'hui.
Amy Hilliard est une femme d'affaires accomplie. MBA à Harvard, 20 ans d'expérience dans les plus grandes entreprises. Et pourtant, quand elle s'est mise à son compte avec Comfort Cake, ça n'a pas été sans mal.
Je n'ai pas trouvé de prêt pour lancer ma société en 2001. Il a fallu que je vende ma maison pour financer l'entreprise. Je ne sais pas si c'est à cause de la couleur de ma peau, mais je pense que ça a joué un rôle. Être une femme aussi, d'ailleurs. Comme notre président Barack Obama, je ne laisserai pas ma couleur de peau être un obstacle. C'est une part de moi, mais ce n'est pas tout.
I just kept going.
Le modèle américain valorise l'ascension sociale. Mais ce processus se fait parfois dans la douleur. Marcus Hunter, 27 ans, vient d'un milieu modeste de Pennsylvanie. Son père était gardien de prison, sa mère secrétaire. Aujourd'hui, il a grimpé dans l'échelle sociale et il prépare une thèse de sociologie à l'université Northwestern. Mais il ne sait plus très bien où est sa place.
I always think of myself as somewhere in between.
Je me sens toujours entre deux, je me sens privilégié, mais en même temps isolé et seul, parce que si j'ai conscience d'appartenir à la classe moyenne, je sais que ce n'est pas le cas de mes frères et sœurs et de ma famille proche. Je suis partagé entre la satisfaction de la réussite et la tristesse.
There's a sense of accomplishment, but also like a sense of sadness at the same time. If you are middle class.
Les gens voient ça comme un jeu à somme nulle. Si vous accédez à la classe moyenne, on va toujours dire dans la classe inférieure que ça s'est fait au détriment de quelqu'un d'autre qui n'a pas les mêmes opportunités.
Everybody isn't afforded the same opportunities and the same access. So if you are middle class, people may see it as at the expense of other people having opportunities or whatever. And then also being middle class, I think.
Et parallèlement, dans la bourgeoisie, on va me faire comprendre que si j'ai réussi, c'est parce que je suis noir. C'est le résultat de la discrimination positive. Donc, je suis toujours obligé de me justifier.
Il faut bien admettre que, malgré la solidarité affichée, il y a clairement un fossé au sein de la communauté noire entre ceux qui ont réussi et les autres. Michael Wright, 49 ans, est cinéaste. Il habite un somptueux appartement dans le quartier huppé de Hyde Park à Chicago, juste à côté de chez Barack Obama. Il a toujours vécu dans un milieu aisé et il se souvient des jalousies suscitées par son statut social.
Growing up in the middle class,
parce que j'ai grandi dans un milieu bourgeois et parce que je suis noir à la peau claire, j'ai toujours été suspect. On me reprochait de me prendre pour un blanc, pour quelqu'un de mieux que les autres. C'est quelque chose que j'ai appris à dépasser, mais je connais beaucoup de gens qui ont succombé à cette suspicion et qui se sont rabaissés pour démontrer qu'ils étaient avec la base.
Une génération plus tard, Angelica Jones, 22 ans, elle aussi enfant de la bourgeoisie noire, s'est heurtée exactement au même genre de préjugés. Au collège, ses copines lui reprochaient de ne pas parler comme tout le monde.
You know, they would tell me like, oh, you're trying to sound like a little white girl. You're trying to, you know, sound all proper. And
on me disait, tu essaies de passer pour une petite fille blanche bien propre sur elle. Mais c'est tout simplement comme ça que j'ai appris à parler à la maison. Je ne peux pas changer le milieu d'où je viens. C'est vraiment dur d'entendre ça. Il y a ce présupposé qui veut que tous les jeunes Afro-Américains soient censés parler noir pour être acceptés dans leur communauté. Mais ce n'est pas vrai. L'essentiel, c'est d'être clair avec soi-même. Je n'ai pas à m'excuser de ce que je suis.
La bourgeoisie noire est-elle menacée par la crise économique? Une étude publiée il y a un an par le Pew Research Center montrait que les deux tiers des enfants de la classe moyenne noire vivaient moins bien que leurs parents, contre un tiers seulement pour les blancs. L'ascenseur social serait-il en panne dans l'Amérique noire? Pour Charlotte Taylor, chargée du recrutement à la faculté de droit de l'université DePaul à Chicago, le problème numéro un, c'est l'éducation.
Les jeunes veulent tout, tout de suite. Donc, au lieu de passer 3 ou 4 années à l'université, ils se disent « je vais commencer à travailler pour avoir un salaire ». Le problème, c'est qu'ils vivent encore chez leurs parents, ou ils louent au lieu de devenir propriétaires. Et ils ne font pas le sacrifice d'investir quelques années à l'université pour ensuite mieux gagner leur vie. L'éducation, c'est la clé de l'ascension sociale. Et c'est très motivant d'avoir Barack Obama, diplômé de droit à Harvard, la meilleure université du pays. Ça va montrer à tous les Afro-Américains de la classe moyenne, mais aussi des classes inférieures, que c'est possible.
Faire grossir les rangs de la bourgeoisie noire, c'est la mission de Sheryl Jackson, à la tête de la Chicago Urban League, association de défense des droits civiques. Cette ancienne femme d'affaires a pour ambition d'ouvrir une nouvelle page dans la longue marche vers l'émancipation des Noirs américains.
I am a product of everything that my parents...
Je suis le produit de toutes les luttes de mes prédécesseurs, du mouvement des droits civiques des années 60, qui m'a ouvert des portes. Le droit de vote, la discrimination positive, la fin de la discrimination dans les écoles, toutes ces avancées sociales ont changé nos vies. Mais aujourd'hui, nous sommes bloqués. Quelle est la prochaine étape sur le chemin de la parité? Le manque d'opportunités économiques et l'absence d'éducation sont la source des problèmes sociaux et des barrières à la réussite sociale. Je pense donc que l'émancipation économique doit être la deuxième phase du mouvement des droits civiques.
La bourgeoisie noire américaine en quête de visibilité. Un reportage de Sylvain Biville à Chicago. Réalisation Marc Minatel.